Pour Madame de Staël, il n'était pas de bonheur dans le repos.
Madame de Staël, 1766-1817, la politique littéraire.
Nous parlons de Madame de Staël, qui vient de brosser le portrait tout à fait piquant d'une femme de génie. Elle compare les femmes honnêtes, vous, mesdames, à des insectes dociles.
Elle affirme qu'une femme, une vraie femme, doit comme un homme se frayer sa petite route à elle.
Un extrait du film Adolphe, tiré du roman de Benjamin Constant, où il était question de Germaine de Staël, auteur par ailleurs de Delphine et de Corinne. Ô femmes, les victimes du temple où on vous dit adorer, écoutez-moi, disait-elle. Germaine de Staël chercha toujours sa place. Son père, déjà le grand banquier et ministre Necker, jugeait que les femmes n'avaient pas à devenir des messieurs du Saint-Écritoire. Pendant et après la Révolution, l'opinion blâma encore davantage les trajectoires qui s'éloignaient de la discrétion attendue des personnes du sexe. Benjamin Constant lui-même, donc l'amant, le compagnon de lutte de Germaine, fut gêné par ses appétits. Quel esprit d'homme, mais avec aussi le désir d'être aimé comme une femme. Auteur de grands textes politiques pas toujours publiés de son vivant, Madame de Staël a dû s'accommoder de la suprématie masculine, mais en essayant de la modeler dans ses salons successifs, qui brillèrent d'un grand éclat de la Révolution à la Restauration, à Paris ou dans son château suisse de Coppet. Napoléon, qu'elle n'avait soutenu qu'au début de Bonaparte, l'a reconnu parfois, mi-sérieux, mi-plaisant, comme son meilleur ennemi. Face à l'esprit militaire et conquérant de l'empereur, elle incarnait une autre conception de la société française et de l'esprit européen, fondé sur la liberté appuyée sur les Lumières. Au point qu'en 1812, un flatteur a pu dire à Madame de Staël « Avec l'Angleterre et la Russie, vous êtes la dernière puissance indépendante de l'Europe. »
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Laurent Theis, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Une édition de La Pléiade, les œuvres les plus littéraires. Une édition cursive bientôt chez Omnibus, Madame de Staël ou l'intelligence politique. Votre édition chez Bouquin Lafond, de quatre grands livres politiques de Madame de Staël. Alors je sais que c'est le deuxième centenaire de sa mort, le 14 juillet 1817. Mais enfin tout de même, quelle floraison tardive et pour quelle raison?
Eh bien, je vois trois raisons à cette seconde floraison, car la première fut très brillante. Le premier élément, c'est que Madame de Staël a été rapidement, après sa mort, disons une génération après sa mort, délaissée, négligée, malmenée par ce qu'on appellerait l'intelligentsia française. Et ce sont les Suisses qui se sont souvenus que, bien qu'elle fût née à Paris, elle était d'abord genevoise par son père et sa mère. Et ce sont les Suisses qui, aujourd'hui, remettent en avant la personnalité de Germaine de Staël. Deuxièmement, le libéralisme connaît un essor nouveau aujourd'hui dans les esprits, dans les recherches, dans le mouvement intellectuel. Et Madame de Staël est véritablement un étendard précoce du libéralisme. Et la troisième raison, c'est qu'elle est une femme, et quelle femme ?
Alors, et quelle femme ? Michel Vinocq, dans la préface de l'édition Bouquin Lafond, dit que dans la même journée, elle peut, femme de tête, écrire de grands textes politiques qu'elle ne publie pas nécessairement, femme de gestion, écrire des lettres à son notaire très énergiques, et femme amoureuse, rédiger des lettres éplorées à l'un de ses amants successifs.
Et encore là, ce ne sont qu'un aspect partiel de son activité. Vous parlez de l'activité de graphomane. Mais en plus, elle se promène, en plus, elle joue la comédie, en plus, elle s'occupe de ses enfants. Il faut concevoir, rétrospectivement, Germaine de Staël comme une sorte de trop-plein ou d'excès. Un excès de vie qui se dispense, au fond, dans tous les domaines auxquels elle peut toucher. Et au fond, c'est quelqu'un qui se consume, qui consume le temps, qui consume les autres, dans un désir de tout saisir.
On pourrait en faire un sujet de film. Et alors, je vous propose de déplier un scénario. On va commencer par des années épiques. Une véritable odyssée qu'elle raconte dans un des livres que vous éditez, 10 ans d'exil. Nous allons être en 1810-1813. Et puis après, on va faire un flashback. Alors, 1810, elle a rompu depuis longtemps avec Napoléon, dont elle dit qu'il éprouve un mépris profond pour toutes les richesses intellectuelles de l'âme humaine. Les vertus, la dignité de l'âme, la religion, l'enthousiasme, tout ça lui est complètement indifférent, et pas à elle.
Alors, il y a, vis-à-vis de Napoléon, comment dire, une évolution de la rétrospective de la pensée de Germaine de Staël. Sur le moment, c'est-à-dire après, au moment des 18 Brumaire, et dans les mois, et même les 18 mois qui suivent, elle pense que Napoléon va véritablement clore la Révolution et instituer un régime où la liberté et l'ordre pourront vivre ensemble. Et puis rapidement, eh bien, c'est le désamour, parce que lui ne l'a jamais aimé, et elle l'a aimé sans retour. Et à partir de 1803, Napoléon lui interdit la chose qui pour elle est l'essentiel, la présence à Paris.
Et alors elle va se retrouver un peu nomade, ou bien quand elle est fixée, résidente dans son château de Coppet, au moins dans un premier temps, peut-elle y recevoir. On n'avait pas beaucoup parlé encore de la conversation de Madame de Staël. Il y avait tellement de monde dans les salons de Coppet l'été que les laquais devaient servir les rafraîchissements par les fenêtres ouvertes sur la prairie.
Stendhal a dit que se tenaient entre 1803 et 1810 les états généraux de l'opinion européenne. Et en effet, convergeaient vers Coppet, ce château au bord du Léman, tous les beaux et bons esprits de l'Europe qui venaient chercher là, quelquefois un peu d'argent, mais surtout le prestige d'une conversation dont ceux qui l'ont vue et entendue disent que personne, une fois eux-mêmes disparus, ne pourra en avoir l'idée.
Ici, on ne loge que ceux qui reviennent.
À partir de l'Ariana et jusqu'au château de Coppet, la route n'est qu'une succession de villas dont la plupart, filles du génie français, ont une grâce simple que complète ce je ne sais quoi de cossu et d'un peu sévère par où se marque toujours l'empreinte de Genève. Nulle part il n'y a de plus beaux arbres. Sur cette terre humide, les tilleuls eux-mêmes prennent des proportions énormes. Sans doute versaient-ils déjà leur ombre odorante sur les pas de Madame de Staël. Mais elle ne dut pas souvent les admirer, elle qui ne cessait de proclamer sa magnifique horreur de la Suisse, à qui elle préférait le petit ruisseau de la rue du Bac.
C'est un extrait de l'heure de culture française de la Radio Nationale en 1954. D'habitude, Laurent Theils, vous êtes un annotateur exceptionnel. Mais là, vous n'êtes pas avec votre épouse, avec qui vous annotez souvent, et on ne peut pas, ni vous ni moi, identifier le professeur qui vient de parler.
Non, mais peut-être quelques auditeurs dont la mémoire serait plus longue, y parviendraient.
Eh bien, c'est un appel que nous lançons. Quand elle écrit de l'Allemagne, qu'elle veut le publier, l'empereur fait pilonner tous les exemplaires, exige d'avoir son manuscrit. Et de Coppet, elle ne peut plus sortir. Et à Coppet, elle ne peut plus recevoir. Alors, elle décide de partir. Enfin, c'est pas facile de partir en 1812. La Suisse est sous contrôle français. Et puis, alentour.
Alors, de fait, elle se sent enfermée alors que certains de ses adversaires ont trouvé qu'elle nous la baillait belle. En réalité, elle peut recevoir tout le monde, sauf des Français. Notamment pas Jules Récamier, sa grande amie. Et également, elle peut aller de Coppet à Genève, ce qui ne fait jamais que 20 kilomètres. Mais l'idée de ne pas pouvoir exprimer complètement, par écrit et par la parole, tout ce qu'elle pense, l'a conduit à vouloir gagner la terre, la mère de toutes les libertés, qui est l'Angleterre.
Oui,
qui est son horizon indépassable depuis que son père lui en parle, c'est-à-dire depuis 1780.
Comment fait-on pour rejoindre l'Angleterre ?
Eh bien, à cette époque, à cause du blocus, on passe soit par Constantinople, soit par la Russie. Ça passe à Saint-Pétersbourg et la Suède.
Oui, mais pour aller en Russie.
Alors, pour aller en Russie, eh bien, il faut un jour de mai 1812 mettre une robe de printemps, prendre son ombrelle, deux enfants par la main, monter en calèche en annonçant qu'on va faire une partie de campagne et partir vers l'Est avec un passeport que l'empereur de Russie lui a fait obtenir.
Mais attendez, quand vous dites deux enfants, il y en a un troisième qui rejoindra en route. Les enfants ne sont pas tous du même lit. Et puis, alors ça, c'est quand même inouï, en 1812, elle vient d'avoir de son amant incomparable John Rocca un enfant. Mais elle est née, ai-je dit, en 1766.
Écoutez, il ne nous appartient pas d'entrer dans les voies de la Providence. Mais il est certain que cet enfant est né des œuvres de John Roquin, un jeune officier revenu de la guerre d'Espagne, et qu'elle en a accouché quelques semaines avant son départ, secrètement, et elle l'a laissé à un pasteur et ne le retrouvera qu'un peu plus de 2 ans plus tard.
Et puis vous dites que c'est facile de passer en Autriche pour rejoindre la Russie, mais les passeports russes se font attendre. Et puis l'Autriche est assez hostile, puisque Napoléon ayant épousé Marie-Louise, elle est plus ou moins alliée avec Paris.
Germaine de Staël est quelqu'un qui, depuis longtemps, a montré un courage physique considérable et un esprit d'entreprise et d'aventure devant lequel tout doit céder. Et donc, avec de l'argent, avec un rayonnement incomparable aussi, Germaine de Staël est une des reines de l'Europe. Il n'y a que le préfet du Léman qui ne s'en aperçoive pas. Et dès lors qu'elle prend le large, elle a pris toutes sortes de précautions. Depuis un an, elle a mis de capital en capital de l'argent placé pour pouvoir le retrouver. Les voitures, les relais de poste sont prêts. Les manuscrits, et notamment celui de l'Allemagne, sont dans les fontes. Et tout a été organisé depuis plusieurs mois pour pouvoir partir. Mais il est certain qu'elle a pris un risque physique et important. Mais s'il avait été arrêté, son succès aurait été plus grand encore.
Mais pour faire un film de 10 ans d'exil, il faudrait pouvoir montrer les chemins de Pologne, très très mauvais.
Très 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 mauvais.
Et puis il faudrait dépenser beaucoup d'argent pour raconter la campagne de Russie, parce qu'il s'avère, mais oui, que Napoléon est à ses trousses. C'est ainsi qu'elle voit les choses en tout cas, puisque Napoléon est parti au même moment à la conquête de la Russie.
Je dois vous rapporter que plusieurs régiments d'infanterie battent en retraite et qu'ils se replient dans le plus grand désordre.
La cavalerie aurait dû se charger de nettoyer le terrain. C'est à donner.
On n'a plus de munitions pour une seule charge, mon colonel.
Cours à la réserve et fais ton donner.
Je vais avec lui.
C'est un extrait du film américain de King Vidor et contrairement aux apparences, on est chez les Russes. Les Russes qui sont en difficulté au début de l'expédition de Napoléon, à tel point que Madame de Staël ne trouve plus de chevaux pour relayer sa voiture.
Eh bien, il y a cette énorme pression exercée par la Grande Armée qui pratique une politique quasiment de terre brûlée, ou en tout cas de vivre sur le pays. Et elle sent dans son dos le souffle brûlant de l'empereur qui la pousse à accélérer le pas, puisqu'il est à 1 mois juste derrière elle. Elle arrive à Moscou à la fin de juillet, au début août, si je me souviens bien, 1812, et lui, il sera quelques semaines plus tard.
Alors, il faudrait reconstituer le Moscou d'avant l'incendie, la demeure du comte Rostopchin, le gouverneur de Moscou, il va mettre le feu bientôt, et où il donne un dîner en l'odeur de Germaine de Staël.
Elle aperçoit pour la première fois, et certainement la dernière, la petite Sophie Rostopchin, future comtesse de Ségur, dans le palais de son père, et elle est reçue dans ce palais d'un faste inouï, où tout ce qui est là, depuis l'aristocratie jusqu'à la valetaille, parle un français aussi pur qu'à Paris. Il faut se songer à ce rayonnement français à l'intérieur même de la citadelle désormais ennemie. Et Germaine de Staël va de palais en palais, reçue, je l'ai dit, comme une reine, comme une princesse de l'esprit. Et elle est une des dernières à nous faire le tableau et à avoir vu Moscou dans sa splendeur qu'elle ne recouvrera qu'en partie.
À Saint-Pétersbourg, où elle parvient, elle voit le travail de l'hôtel des Monnaies et elle compare les machines qui frappent les pièces au dispositif tyrannique de Napoléon qui tue les hommes.
Un des éléments de la haine, on peut dire, de Germaine de Staël pour Napoléon, c'est le peu de ménage qu'il fait du sang des hommes. C'est le fait que les individus, les groupes et même les nations comptent pour rien devant son ambition. Et ce qu'elle ne lui pardonnera jamais, c'est à la fois l'assassinat du duc d'Enghien, dont elle n'était pourtant pas une zélatrice, et les montagnes de cadavres, les monceaux de cadavres qui accompagnent le retrait de la Grande Armée.
Mais elle est reçue par l'empereur de Russie, Alexandre Ier. Tout de même, là, le portrait n'est-il pas trop indulgent, le meilleur citoyen de cet empire, enfin l'alliance de la puissance et de la vertu?
C'est un fait qu'on peut relever. C'est un effet de contraste avec Napoléon. D'un côté, le tyran conquérant, de l'autre, le sage empereur qui prend la société russe dans l'état où elle est pour essayer de la porter un peu en avant, en particulier grâce aux lumières françaises et européennes, et quelqu'un qui, à cette époque, il faut bien le reconnaître, professe des doctrines libérales dont il dit facilement qu'elles sont inapplicables à son pays, mais dont il cherchera, en 1814 et en 1815, à les faire prévaloir en France même.
Mais c'est très important, ça, dans la pensée politique de Germain de Staël. Il faut être un pas en avant par rapport à l'état de l'instruction de la nation, mais pas trois pas devant.
C'est quelqu'un qui a un sens très aigu du temps en général et du tempo politique en particulier. Elle, dans sa pensée politique, elle lit toujours, comme vous le dites, le niveau d'éducation, le niveau de liberté, par exemple, de la presse, le niveau de liberté des mœurs, la place des femmes dans la société, qui forment au fond une sorte d'ensemble, de nœud, par lequel, grâce auquel, la société peut se développer sans brûler les étapes.
Alors, en Russie, elle voit quand même trop d'écart. Elle le note sans cesse. Et la voici qui passe en Suède. On n'a pas dit qu'elle avait été mariée par ses parents au baron de Staël, qui avait été ambassadeur de Suède à Paris. Donc, elle avait une sorte de nationalité suédoise quand elle arrive à Stockholm, elle en 1812, à la fin de l'année.
Le concept de nationalité, à l'époque, était beaucoup plus flou. Mais elle est en effet une femme de diplomate, même si le mari est mort il y a juste 10 ans plus tôt. Et elle est ambassadrice et baronne suédoise. Et d'autant plus baronne et suédoise qu'elle est proche depuis longtemps du prince héritier de Suède, Bernadotte, qu'elle a connu au début du consulat, même à la fin du directoire, et qu'elle a cherché elle-même à opposer à Napoléon comme un républicain vertueux face au tyran barbare.
Et elle va se targuer d'avoir aidé à l'alliance de l'Angleterre avec la Suède de Bernadotte au moment de son séjour ?
Ça n'est pas complètement inexact. Elle avait des liaisons anglaises depuis très longtemps, très fortes. Elle correspondait avec tous les leaders politiques anglais, de l'opposition de la majorité. Et elle a poussé par ses conseils Bernadotte, qui n'est pas encore une tête politique, qui est d'abord un maréchal de l'Empire. Et elle a poussé à des liens entre l'Angleterre et la Suède, ce qui a pu la faire soupçonner, et naturellement ses adversaires ne se sont pas privés, d'une sorte quand même de trahison vis-à-vis de son pays, en nouant une alliance contre lui.
C'est quand même un peu coûteux notre film, parce que maintenant qu'on est en Suède et qu'elle va embarquer pour l'Angleterre, il va falloir qu'un déploiement de troupes anglaises descendues du bateau qui va la convoyer jusqu'à l'Angleterre joue et ça lui tire des larmes. God save the King.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Madame de Staël, la politique littéraire. Laurent Teil s'est dit dans la collection Bouquins chez Lafont, 4 grands livres politiques de Madame de Staël. Ça fait du bien d'entendre God Save the King.
Pourquoi ça fait du bien rétrospectivement parce que il y a 2 siècles, véritablement, l'Angleterre était la terre de la liberté.
Alors, l'Angleterre est la terre de la liberté. Le parlementarisme anglais est un modèle. Elle a aussi écrit sur l'Italie, on ne l'a pas dit. On a cité le fameux livre de l'Allemagne qui lui a causé tant de difficultés avec l'empereur. Il faut, dans nos temps modernes, avoir l'esprit européen.
Voilà, c'est une très belle citation de l'Allemagne, précisément, qui est certainement pour cet esprit européen, pour le servir et le faire connaître, parce que son intention est une pédagogie européenne à l'usage de ses contemporains, c'est certainement dans de l'Allemagne qu'aujourd'hui on trouverait les ressources les plus fécondes. Germaine de Staël a eu cette perspicacité de comprendre que l'Europe était en effet une unité de culture et de civilisation, mais qu'en même temps, et ça c'est nouveau, qu'en même temps, le mouvement des nationalités ne devait pas entrer en contradiction ou en percussion avec ce désir, au fond, de réunion européenne. Il fallait donc aller contre l'esprit napoléonien, qui voulait tout unifier, et au contraire faire servir les différences, les caractères originaux de chaque littérature, de chaque culture européenne, principalement celle que vous avez citée, pour concourir à un modèle européen où chacune de ces cultures apporterait le meilleur d'elle-même. Donc la première chose à faire, c'est de connaître ces cultures qui nous sont voisines et qui sont trop souvent ignorées ou en France méprisées.
La traduction, c'est très important pour Madame de Staël, c'est le transport d'une langue à l'autre des chefs-d'œuvre.
Elle a écrit un traité de la traduction, très précisément, et elle s'est essayée à apprendre l'allemand pour pouvoir traduire ou se faire traduire. Elle parle parfaitement l'anglais et elle a des notions d'italien extrêmement fortes. Donc c'est quelqu'un qui lit les œuvres dans le texte et qui s'efforce de les transcrire, y compris la philosophie de Kant, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui.
Dans votre édition Bouquin Lafont, il y a deux grands livres sur la Révolution. L'un très connu, Les considérations sur la Révolution française, et l'autre qui est resté inédit, voire ignoré jusqu'en 1906, les circonstances actuelles qui pourraient terminer la Révolution. Mais dans notre film, il va y avoir des flashbacks. On pourrait peut-être voir ce qui s'est passé dans l'entourage de Madame de Staël quand elle avait 23 ans, en juillet 1789, on pourrait partir de là et du sort de son ministre de père Necker.
Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à monsieur Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère.
Le 16 juillet, Louis XVI rappelle mon père aussi vite qu'il l'avait démis. La popularité de M. Necker est immense.
Pour la troisième fois, je me retrouvais aux affaires, mais cette fois, il ne s'agissait plus d'obtenir et de conserver la confiance d'un monarque, mais d'obtenir ne serait-ce que l'attention d'une assemblée, de lui donner un peu de ce gros bon sens devant lequel je m'agenouille chaque jour avec plus de respect en voyant combien, dans toutes les affaires, nous paierons chèrement le mépris qu'on lui a ou les dédains qu'on lui témoigne. Quel plaisir pour tous ces messieurs de donner des ordres chaque jour à leur premier commis, le roi de France. Je ne pouvais rien.
Elle a vécu l'accélération des événements. La popularité puis l'impuissance de Necker. Elle a connu le rêve de la monarchie constitutionnelle et les massacres de septembre 1792, pendant lesquels elle s'est comportée, comme souvent, avec générosité et courage. Elle est revenue en 1795 et quand elle réfléchit rétrospectivement sur ce parcours incroyable, elle dit que le passage de la Révolution était prévisible, c'est pas arrivé par hasard, et qu'il faut la considérer sans esprit de revanche.
Que la Révolution fut prévisible, en effet, elle en est convaincue très tôt. Et c'est un des points sur lesquels se sont appuyés les libéraux français du XIXe siècle, notamment Tocqueville. C'est une intuition de Madame de Staël de montrer qu'un grand mouvement est à l'œuvre, qui se cristallise sous ses yeux, puisqu'elle a assisté à tous les événements depuis 1788. Elle a assisté à l'inauguration des États généraux en 89 jusqu'à 1795. Et sans esprit de revanche, pourquoi ? Eh bien parce que tout son effort politique, personnel et, je dirais, social, a été de concilier les ennemis d'hier. C'est-à-dire de capter, comme pour l'Europe d'une certaine manière, elle a des idées un peu fixes, capter ce qu'il y a de meilleur dans chacun des partis pour les faire concourir ensemble au règne de la liberté. Car ce à quoi Germaine de Staël est attachée, son étoile polaire dans tous les domaines, c'est la liberté.
Renouer les fils, elle emploie le mot, moi je pensais que le mot était beaucoup plus récent,
Il est déjà usé.
Lien social.
Madame de Staël a créé, quelquefois, des néologismes pour mieux servir sa pensée. Et en effet, le lien social, le maintien du lien social, c'est l'obsession des libéraux depuis les thermidoriens. Après la subversion de tout, le bouleversement de la société, des familles, des états, des structures, eh bien, il s'agit de renouer le fil et du temps et de la société. Et pour cela, rien de mieux qu'un salon, rien de mieux qu'un cercle de pensée, rien de mieux que des associations d'esprits libres qui peuvent parler de tout. Et, sans faire exception de personne. C'est-à-dire, elle dit aux monarchistes constitutionnels, ne traitez pas les républicains de bourreaux, et elle dit aux républicains, ne traitez pas les monarchistes de réactionnaires.
Le salon, elle va le retrouver en 1814, quand le tsar Alexandre entre dans Paris. La restauration, pour elle, c'est synonyme, à certains égards, de libération. Le jeune Charles de Rémusat l'observe dans ses derniers éclats. On ne savait pas quand elle entrait, si ce n'était pas une ancienne cantatrice ou quelque chose d'approchant, avec sur la tête un gros bonnet, un turban assez bas, des châles qui tenaient peu sur elle et qui traînaient de chaque côté de ses épaules. L'aspect était bizarre et tenait un peu du grotesque, mais l'esprit transfigurait tout ce qu'elle disait. Il y avait une force spéciale dans toute sa personne.
Je crois que la pression éprouvée par Charles de Rémusat à 21 ans a été partagée par tous ceux qui ont rencontré Germaine de Staël. D'un aspect lourd peut-être, un peu épais, si on ose dire, sans être discourtois, mais dès qu'elle prenait la parole, qu'elle la distribuait, qu'elle la faisait circuler avec ce génie salonnier, eh bien, tout se transformait. Et Charles de Rémusat a eu cette phrase admirable quand il a découvert les considérations sur la Révolution française, quand il les a lues pour la première fois et qu'il en a fait des articles, ses premiers articles publiés. Il a dit « Ce livre, sans doute, contient des vérités qui ne pouvaient être dites que par une femme. »
C'est le bréviaire du libéralisme pour une, deux ou plusieurs générations, avec toutes les grandes questions du libéralisme qui sont posées.
Toutes les grandes questions, qu'il s'agisse du système représentatif, qu'il s'agisse de l'expression de l'opinion publique, de la place de la presse, des libertés individuelles et collectives, de la place de la femme, du rôle de l'intellectuel, le mot y est presque chez elle, elle a mis à plat tout ce matériau dont les libéraux se serviront et que la République retrouvera telle qu'elle en 1870.
Et elle meurt en pleine gloire en 1817, laissant dans son sillage bien des ouvrages posthumes. Vous faites un sort à tel ou tel d'entre eux dans votre édition Laurentès de bouquin Lafont, Madame de Staël ou la passion de la liberté.
Elle repose dans l'étrange nécropole qu'avait voulu Necker, qui planta lui-même les arbres du Bosquet. Dans les mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand en donne une description. À quelque distance du parc, dit-il, est un taillis mêlé d'arbres plus grands et environné d'un mur humide et dégradé. Ce taillis ressemble à ces bouquets de bois au milieu des plaines que les chasseurs appellent des remises. Un sépulcre avait été bâti dans ce bois pour y recevoir Necker, sa femme et leur fille. Dans la crainte des ensevelissements précipités, Madame Necker avait ordonné que son corps, et plus tard celui de son mari, fussent conservés dans l'esprit de vin.
Préparé par Céline Loriou, c'était une émission réalisée par Gaëtan Colli avec à la technique Guillaume Roux.